Bonsoir. Eh bien oui, nous allons parler ce soir de Garibaldi. Et avant d'aborder ce personnage hors mesure, je voudrais vous dire deux mots simplement d'un grand ami de Garibaldi qui fut Alexandre Dumas. Vous me direz, aucun rapport. Si, vous allez voir, il y a tout de même un rapport. Mais puisque nous sommes là, enfin je l'espère, entre amis, je voudrais simplement vous signaler que nous sommes un certain nombre d'écrivains qui avons pris pour tâche de sauver la maison d'Alexandre Dumas et que samedi prochain, ces écrivains, nous serons une quinzaine, nous allons signer nos livres dans le château d'Alexandre Dumas qui s'appelle le château de Monte-Cristo et que les gens qui viendront là faire signer des livres la veille de la fête des Pères, vous voyez, je fais bien l'article, eh bien, feront une bonne œuvre parce que tout l'argent qui sera récolté, ce sera pour des tuiles, pour du ciment, pour des pierres, pour la maison d'Alexandre Dumas. Alors, si vous aimez les Trois Mousquetaires, je vous donne rendez-vous samedi de 15 à 19 heures à Marly-le-Roi, sur la Nationale 13, au château de Monte-Cristo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et j'en arrive à Garibaldi. Pourquoi Garibaldi? Eh bien, parce que c'est un personnage qui personnellement me hante depuis très longtemps, et puis parce que je me suis rendu compte depuis longtemps aussi qu'on ne le connaît pas. Et pourtant c'est un personnage fabuleux. Je crois même que c'est un des personnages les plus fabuleux de toute l'histoire. Et voyez-vous, il y a quelques années, travaillant sur Garibaldi, j'ai voulu aller boulevard Garibaldi à Paris. Il y a un boulevard à Paris, il y a des rues, des places dans toute la France. J'ai demandé aux gens qui passaient, je leur ai dit, mais où êtes-vous ici? Ils m'ont répondu, boulevard Garibaldi. Et qui est Garibaldi? 9 sur 10 n'en savaient rien. Il y avait même une station-service Garibaldi, on ne savait pas qui était Garibaldi, un café Garibaldi, dont la propriétaire, pardon madame si vous êtes à l'écoute, ne savait pas qui était Garibaldi. Alors voulez-vous que nous essayions de savoir qui était Garibaldi? Il naît à Nice, très exactement le 4 juillet 1807, c'est l'Empire, Napoléon règne, Nice est français, et il est d'une famille modeste, des marins, des gens de la mer, comme souvent à Nice, comme souvent sur les rives de la Méditerranée, et tout naturellement, eh bien, il est destiné à la mer. C'est un petit garçon un peu différent de ses frères, à la fois plus décidé et plus romantique, à la fois casse-cou et pleurant, par exemple, quand il casse la patte d'un grillon. Il est comme ça. À 15 ans, il émousse, c'est normal. Il est marin, matelot, et il va naviguer pendant longtemps, pendant près de 10 ans. Il va sillonner la Méditerranée, on le verra un peu dans tous les ports, des navires de commerce, c'est son lot. Et mon Dieu, il ne s'inquiète pas trop de la vie, il est heureux, il est content, il ne sait pas qu'il sera Garibaldi. Et Giuseppe Garibaldi, il ne le sait pas, naturellement. Et un jour, il a 25 ans, le bateau dont il est second à Marseille charge des gens. Des gens qui veulent partir pour la Crimée. Et ces gens sont bizarres. Ils ont des vêtements un peu curieux, des grandes barbes, des yeux un peu rêveurs, il y a des hommes, des femmes, ils apportent tout ce qu'ils ont, des baluchons. Et celui qui conduit cette espèce de troupe s'appelle Émile Barrault. Et sur le bateau, on met longtemps pour aller en Crimée sur un voilier à cette époque-là, eh bien, le petit Garibaldi, le petit marin, le petit matelot, parle avec ce Barrault. Et ce Barrault lui explique qu'il est disciple d'un théoricien qui s'appelle Saint-Simon, qui a voulu refaire le monde. Ils sont quelques-uns à cette époque. Vous savez, nous sommes à ce moment-là en 1833. Et il y a des tas de gens, qui, surtout en France, qui jettent leur regard sur le monde, qui trouvent que ça ne va pas. Il y a Fourier, il y a le père Enfantin, il y a Saint-Simon. La plupart des bourgeois français, sous Louis-Philippe, on a les pieds à terre, s'amusent parce que ce sont des rigolos. Ils veulent refaire la terre, ils veulent refaire le monde, ils veulent que tout le monde soit égal, ils veulent plus de riches, plus de pauvres, une société fraternelle. Tout ça, ça amuse beaucoup. Et c'est Émile Barrault qui a été déçu parce qu'il sait que la société de Saint-Simon ne se fera jamais en France, part. Ils sont là, toute une bande, qui vont dans les grandes terres presque vierges de la Russie s'installer, installer cette société idéale. Et voilà que Joseph Garibaldi, le matelot, a la révélation justement de ces choses-là, qu'il ne soupçonnait pas, que des gens puissent rêver à une société fraternelle. Et il est frappé, profondément frappé. Et il faut croire que le destin, ça existe. Parce que, étant justement en Russie, au port de Taganrog, plus précisément, il entre dans un café et il entend parler italien. Et dans ce café, il s'approche quand un Italien retrouve un Italien, il a envie de parler italien. Parce qu'entre-temps, Nice est devenu italien à partir de 1815. Vous savez, l'histoire de la ville de Nice, à cette époque-là, ça change. Il parle avec ces Italiens qui lui disent, mais Mazzini, ça ne te dit rien? Ben non, ça ne disait rien à Giuseppe Garibaldi, Mazzini. Et on lui dit, mais enfin, Mazzini, la jeune Italie, il ne sait pas ce que c'est. Et on lui explique ce que c'est que Mazzini, un autre théoricien, un Italien, lui, et qui lui vit pour la liberté de l'Italie, pour l'unité de l'Italie, parce qu'à cette époque-là, l'Italie, depuis les le congrès de Vienne depuis 1815, l'Italie, c'est un magma de petites principautés, de royaumes, c'est découpé, on a fait ça, on a mis autour d'une table, on a recréé un royaume de Piémont, un royaume de Naples, un duché de Modène, de Parme, la Vénétie, les états du pape. Et Mazzini dit, mais c'est effrayant. Nous sommes tous italiens, nous sommes 20 millions. Et pourquoi est-ce que nous sommes distribués comme des troupeaux à des princes qui sont des tyrans? Oui, des tyrans, car cette Italie-là, si vous avez lu ou vu à la télévision la Chartreuse de Parme, de Stendhal, eh bien, c'est celle-là. C'est-à-dire des petits tyrans locaux, la plupart du temps, avec des polices, un mot de trop, en prison. C'est étouffant, l'Italie. Et pourtant, ils aspirent tous à quelque chose, à être un seul État, à être 20 millions d'Italiens. Et Mazzini, il aspire plus que les autres, et il a créé ce groupe, la jeune Italie, il écrit des pamphlets, des libelles, des journaux, il est en exil. Et un peu partout en Italie, des gens, secrètement, se sont reliés à son mouvement. Et Garibaldi ne connaît pas. Et là, à Taganrog, un matelot lui dit, mais ça existe, Mazzini. Et où est-il, ton Mazzini? À Marseille. Le port d'attache, justement, de Garibaldi. Quand il arrive à Marseille, il rencontre ce Mazzini. Et c'est alors une sorte de coup de foudre intellectuel. Mazzini plaît à Garibaldi. Garibaldi plaît à Mazzini. Et Garibaldi, séance de Nantes, est enrôlé dans la jeune Italie. Il devient frère. C'est une sorte de société secrète où on est frère, comme chez les Carbonari. Il est frère avec Mazzini. Il est le frère de Mazzini. Et Mazzini lui dit, tu sais, c'est pour bientôt. Mais qu'est-ce qui est pour bientôt? L'étincelle. Nous allons mettre le feu aux poudres de l'Italie. Partout, j'ai des amis qui vont se lever le même jour, au début de février 1834, là, dans 2 mois. Et toi, tu vas aller à Gênes. Tu vas t'enrôler dans la marine royale. Et le soir qui conviendra, tous se réuniront autour de toi, tu soulèveras la marine royale. Tu hisseras le drapeau révolutionnaire italien, vert, blanc, rouge, à la poupe de ton bateau. Et l'Italie sera libre. Voilà l'idée folle de Mazzini. En effet, il a des frères un peu partout en Italie, mais il y a aussi beaucoup de policiers. Et quand Giuseppe Garibaldi, avec son camarade Motrou, part pour Gênes, quand il fait ce qu'on lui dit, quand il réunit des marins, quand il se prépare pour le grand soir de février 1834, quand il arrive au lieu fixé de la conspiration, il s'aperçoit qu'il est seul avec Motrou. Car tous les autres conjurés ont été arrêtés par la police. La police a décapité la conspiration dans l'œuf. Et déjà, la police approche. Garibaldi arrive à fuir. Motrou est arrêté grâce à une fruitière, Teresina, qui prendra Garibaldi en amitié et qui lui donnera les vêtements de son mari. Garibaldi dira plus tard, ah oui, c'était un ange. Grâce à une autre femme encore, qui aidera à fuir Garibaldi, grâce à une troisième, ça fait beaucoup d'anges, parce que pour Garibaldi, toutes ces femmes sont des anges. Ben oui, pourquoi pas. Il passe la frontière, il est en France, il est à Marseille, et il pleure avec Mazzini l'échec de leurs illusions. Il ne pleure pas longtemps, parce que Garibaldi n'est pas un homme qui a envie de pleurer. Il a envie d'agir. Bon, pour un moment, c'est fini en Europe. Et il regarde du côté de l'Amérique du Sud. Pourquoi? Eh bien parce qu'en Amérique du Sud, il y a pas mal d'exilés italiens et il sent confusément qu'il y a quelque chose à faire pour lui maintenant qu'il a choisi. Qu'il a choisi de consacrer sa vie à la liberté de l'Italie, certes, mais à la liberté tout court. Et ça, c'est Émile Barreau. Émile Barreau qui lui a dit, tu sais, vous savez, la liberté de l'homme, la fraternité de l'homme, elle se fait dans son pays, mais elle peut se faire ailleurs. Si on sert la liberté et la fraternité quelque part dans le monde, on la sert aussi pour son propre pays. Et il part. Il arrive dans ce Brésil, à Rio de Janeiro, qui est un pays neuf, où il y a énormément d'Italiens. Il se fait prêter un bateau, un trois-mâts, un vieux trois-mâts qu'il appelle le Mazzini. Et à la poupe, il hisse le drapeau révolutionnaire italien, le vert, blanc, rouge. Et ce bateau, il va l'offrir à une petite république en révolte qui s'appelle le Rio Grande do Sul. Elle est en révolte contre le Brésil, qui est une monarchie, une république. Le cœur de Garibaldi bat parce que son cœur bat toujours. C'est un cœur chaleureux. Et il va voir les dirigeants de cette petite république insurgée, leur dit, voilà, j'ai un bateau, j'ai des bras, j'ai une tête, j'ai quelques matelots italiens. On vient les mettre à votre disposition. Alors il devient le commandant de la marine, il n'y a qu'un bateau, du Rio Grande do Sul. Et il sillonne les mers, il devient corsaire, un tout petit peu pirate, mais enfin n'insistons pas, pour lui il est corsaire. Enfin il attaque tout de même des bateaux qui ne sont pas défendus, qui ne sont pas tout à fait brésiliens. Mais enfin, il y met la meilleure intention du monde parce que ces bateaux vont vers le Brésil, alors il est normal qu'il les arraisonne, qu'il réquisitionne. Et un jour, il a affaire à plus fort que lui. Plusieurs bateaux brésiliens, bataille navale. Ces hommes tombent autour de lui sur le pont et lui-même reçoit une balle entre l'oreille et la carotide. Il est à moitié mort. Et là, il est seul à pouvoir conduire le navire. Alors c'est ce moribond qui va donner les conseils pour se rapprocher de la terre. Et ce moribond qu'on va soutenir, parce qu'il n'y a pas de vivre à bord, en lui donnant, vous savez, c'est un bateau brésilien, un bateau tout au moins Rio Grande do Sul, à côté du Brésil, donc il y a du café à bord, c'est là que je voulais en venir. Alors on lui donne du café toutes les heures, une heure, toutes les heures une tasse de café. Et des médecins qui étudieront plus tard cette affaire diront que les matelots, sans le savoir, ont sauvé Garibaldi. Il était mourant, c'était son cœur qui pouvait faiblir. Et avec le café, on l'a soutenu, son cœur. Et le bateau arrive finalement dans un port qui n'est pas un port ami. Et comme ça n'est pas un port ami, on arraisonne le bateau, on arrête les matelots et on met aux arrêts Garibaldi, qui est à moitié mort, qu'on soigne. Et quand il est convalescent, le gouverneur lui fait dire qu'il n'a pas l'autorisation de s'en aller. Pas l'autorisation, c'est complètement égal à Garibaldi. Garibaldi n'aime pas qu'on lui interdise quoi que ce soit. Alors, il s'en va. Et quelques jours plus tard, on voit arriver à la citadelle, spectacle assez affreux, qui est un homme complètement ligoté, attaché sur un cheval. Cet homme, c'est Garibaldi qu'on a rattrapé. Il a le visage entièrement sanglant. Ce sont des terribles insectes de la savane qui l'ont piqué. Il était lié, il ne pouvait pas les chasser. Et puis alors, les cheveux sanglants aussi. Et on le jette comme un paquet chez le gouverneur qui lui dit, alors on t'a aidé à fuir. Peut-être. Alors qui t'a aidé à fuir? Ça ne vous regarde pas. Alors le gouverneur, un coup de cravache en plein visage. Qui t'a aidé à fuir? Ça ne vous regarde pas. Deux coups de cravache. Et bientôt le visage zébré de coups de cravache. Et à un moment, quand on attache par les mains au plafond, Garibaldi, qu'on lève la corde, il va rester deux heures, tordu, souffrant abominablement. Tout de même, quand le gouverneur passe à sa portée, il lui crache au visage. Ce qui n'arrange pas les choses. On le jette au cachot, il est soigné, enfin on le libère, et il reprend cette vie. Cette incroyable vie. Il dira d'ailleurs que c'est peut-être sa plus belle époque. Parce qu'il dépeint dans ses mémoires, c'est beau les mémoires de Garibaldi. Il dépeint ses terres vierges. Il dit que du pont de son bateau, il voyait ses savanes, ses forêts extraordinaires, ses lianes, ces animaux sauvages, ces immenses troupeaux de chevaux sauvages qui galopaient, la crinière au vent, et puis les antilopes, et puis les grands gibiers, et puis les grandes herbes. Et il avait l'impression de la nature à l'état pur. Il était toujours près de la nature, Garibaldi, comme les hommes vrais, comme les hommes purs. C'était un homme pur, il était près de cette pureté de la nature. Un jour, il est sur son bateau, devant une petite île, l'île de Santa Catarina, et là, dans le champ de ses jumelles, tout à coup, il voit une jeune fille. Il la trouve fort belle. Il aime bien les dames, les demoiselles. Garibaldi, on ne peut pas lui en vouloir. Alors, il fait mettre un canot à la mer, il descend à terre, c'est tout petit, et quelques maisons, et il trouve près d'une fontaine la jeune fille en question. Et bien entendu, il s'est trouvé au 19e siècle un dessinateur pour immortaliser cet instant. Je crois que Garibaldi est l'homme sur lequel on a le plus peint de tableaux et le plus dessiné de scènes. C'est prodigieux, tout ce que nous avons sur lui. Tous les instants de sa vie. Et alors là, il se présente. Et elle s'appelle Anita. Malheureusement, elle est mariée. Ce sont des choses qui arrivent. Mais enfin, ça ne semble pas les préoccuper l'un et l'autre, parce que quand, quelques semaines plus tard, il quitte Santa Catarina, eh bien, il y a en plus de son équipage à son bord, il y a une jeune personne. Et c'est Anita. Et Garibaldi dira, désormais, elle ne me quittera plus. Elle partagera toute ma vie d'aventure, toutes mes joies et aussi tous mes périls. Ah oui, les périls. Il y en a. Parce que non content de se battre sur mer, il se bat à terre aussi. Et lui, qui était un bon marin, devient un merveilleux cavalier à la tête d'hommes exercés, il connaît la stratégie de la guerre de partisans, la guerre de position, il sait contourner les positions de l'ennemi, il fait le coup de feu, il sabre, et elle est à côté de lui. Elle est sans cesse à côté de lui, elle ne quitte pas, il avait raison, elle est avec lui. Et même, à l'occasion, elle met au monde, dans la brousse, un petit garçon, que Garibaldi appellera Menotti, du nom d'un héros de l'indépendance italienne, guillotiné par un des tyrans, un des petits tyrans de la Restauration. Alors, les années passent. Ils sont à Montevideo. Il devient colonel d'une légion italienne au service de l'indépendance de l'Uruguay. Toujours l'indépendance parce que ces pays, pour lui, sont des pays qui veulent se libérer. Alors, s'ils veulent se libérer, il est là, Garibaldi. Toujours, Émile Barrault. Je sers la liberté au Rio Grande do Sul, je sers la liberté en Uruguay, et ça veut dire que je sers la liberté tout court. Et que servant la liberté tout court, eh bien, je pense à mon pays qui est encore l'Italie, à ce pays qui, lui, n'est pas libre. Il n'est pas libre, mais tout change. Et alors que 10 ans ou 12 ans avant, Mazzini était presque seul avec quelques centaines de frères, dans l'Italie de 1847, tout bouge, tout change. Et on sent comme un bouillonnement. Toute l'Europe est d'ailleurs comme ça. 1848, ça va être la révolution européenne partout. Ça partira de Paris, mais ça ira en Allemagne, ça ira en Hongrie. Et on perçoit là-bas, on perçoit très bien, au Brésil, en Uruguay, qu'il va se passer quelque chose. Et tout à coup, Garibaldi décide de rentrer. Et il part avec ses fidèles italiens. Ses fidèles italiens, ils sont 63, qui partagent ses combats depuis des années. Et tous vêtus comme lui, eh oui. Parce qu'un jour, il a revêtu une chemise rouge, que sur sa chemise rouge, il a placé un poncho blanc, et puis le grand chapeau de là-bas, eh bien, les autres. Sa légion italienne se sont tous revêtus de la chemise rouge. Ce sont les chemises rouges. Et ils arrivent à Nice, première étape, parce qu'il veut revoir sa vieille mère, son père est mort. Et lui, qui ne sait pas ce qu'il attend, stupéfait, voit toute la ville de Nice, sur le port. Et là, c'est un immense cri de joie, d'enthousiasme. Vive Garibaldi! Vive la liberté! Vive l'Italie! Et il ne comprend pas. Mais c'est qu'il est célèbre. Il le savait. Parce que tous ces exploits, vous savez, j'ai dû les raconter vite, hélas, mais on aurait pu faire une émission entière sur Garibaldi en Amérique du Sud, ses faits d'armes, ses batailles, Tous ces exploits, les Italiens les ont écrits en Europe. On l'a rapporté à Mazzini, et Mazzini, trop content de voir d'autres Italiens s'illustrer, a raconté ça dans ses journaux. Et toute l'Italie est folle de ce héros d'Amérique qui s'appelle Garibaldi. Alors à Nice, on accueille Garibaldi avec un enthousiasme fabuleux. Et alors qu'en Italie, au royaume de Piémont, le roi Charles-Albert prépare secrètement son attaque contre l'Autriche. Il veut libérer les provinces du Nord occupées par l'Autriche. Le roi Charles-Albert se rend compte qu'il y a une carte fabuleuse, une carte qui s'appelle Garibaldi. On chante même en Italie des chansons sur le héros Garibaldi. Il se dit, il faut utiliser cet homme-là. Il y a une énergie à utiliser, à peut-être à canaliser. Et voilà les deux hommes qui se rencontrent. Eh oui, le roi Charles-Albert et Garibaldi, qui avait été condamné par contumace à mort en 1834 par le même Charles-Albert. Mais vous savez, ça c'est la politique, il ne faut absolument pas s'inquiéter de ces choses-là. Charles-Albert a complètement oublié qu'il a condamné à mort Garibaldi, et Garibaldi l'a oublié aussi. Le principal dans ces cas-là, c'est de ne pas être exécuté. Alors les deux hommes sympathisent. Garibaldi offre sa légion, dit qu'il va appeler des volontaires, et alors là, ça a l'air d'ennuyer beaucoup Charles-Albert, parce qu'il se dit, ben oui, mais c'est un révolutionnaire cet homme-là, alors on peut l'utiliser, mais enfin tout de même, des volontaires, où va-t-on? Alors il lui dit, écoutez, la Lombardie s'est révoltée, Venise s'est révoltée, allez donc à Venise, vous ferez un peu le corsaire, c'est votre métier. Garibaldi, qui n'est pas absolument tombé la dernière pluie, malgré sa pureté, sa naïveté magnifique, se rend compte des choses. Il dit non. On veut m'envoyer à Venise, eh bien j'irai à Milan. Et à Milan, il apparaît sur le balcon de la plus grande place. Et là, c'est l'accueil de Nice qui recommence. C'est l'acclamation de 50 000 personnes. Vive Garibaldi. Et là, il est à son affaire, il lève une légion. Et dans cette légion qui défile, la légion des chemises rouges, vient se placer un intellectuel à la barbe noire, mince et fragile, qui est Mazzini, et qui désormais signe Mazzini volontaire garibaldien. Cette guerre de 1848, c'est une triste guerre. Le petit Piémont n'est pas de force. L'Autriche est un pays considérable, énorme, avec une armée très forte, de bons chefs militaires, et tout ça sera écrasé, vous le savez. Charles-Albert devra même abdiquer. Quant à Garibaldi, il devra tout à fait, à la fin, poursuivi dans les montagnes. Il n'y a plus que 30 hommes avec lui. Il va être pris, il s'est battu jusqu'au bout. Il doit fuir en Suisse. C'est fini? Non, c'est pas fini. Parce que voilà une nouvelle révolution qui éclate en Italie. Décidément, cette Italie veut la liberté. Garibaldi le sait, qui veut de toutes ses forces servir cette liberté. Et une nouvelle révolution éclate à Rome. Le pape s'enfuit, le pape Pie IX s'enfuit. On proclame la République. Et Garibaldi, avec sa légion, déclare qu'il arrive. Et le voilà qui arrive dans la ville éternelle, lui sur son cheval blanc. Il est moins jeune. Et surtout, il souffre beaucoup de rhumatisme. Il en souffrira de plus en plus. Et dans les moments les plus terrible de sa vie, sera terrassé par des attaques abominables qui l'empêcheront de marcher. Et justement, dans cette marche sur Rome, il a dû se faire porter, on a dû lui couper une botte tant il souffre. Et le voilà à Rome. Rome qui est menacée de partout, parce que le pape a fait appel à l'Europe. Et déjà, les Français annoncent leur arrivée, les Espagnols annoncent du secours, les Napolitains annoncent qu'ils vont marcher sur Rome. Et on a besoin. La République a bien besoin qu'elle soit défendue. Et c'est la Légion de Garibaldi qui va la défendre. Et quand les Français arrivent, les Français d'Oudinot, on leur a annoncé une promenade militaire, et qu'ils arrivent sous les murs de Rome, au Janicule, qu'est-ce qui se trouve? Garibaldi et ses hommes. Et l'armée française recule. C'est la première grande victoire de Garibaldi. Ensuite, Garibaldi marche sur les Napolitains. Et à Velletri bat les Napolitains. Ça n'est qu'un répit. Les Français envoient d'autres troupes. Et cette fois, si nombreuses qu'elles entrent dans Rome. Et malgré des prodiges, des centaines, des milliers de morts, Garibaldi sans cesse au premier rang, blessé au ventre, ne voulant pas se faire soigner, c'est trop. Le nombre les écrase. Et les voilà partis, qui fuient. Lui, Anita. Mais oui, elle est là, à côté de lui, quoique enceinte, déjà de plusieurs mois. Et 4000 volontaires garibaldiens qui suivent dans les montagnes des Apennins. Il fait froid. La route est difficile. Les volontaires sont blessés, tombent malades, s'égaillent. Quand ils touchent à la mer, ils ne sont que quelques centaines. Ils arrivent péniblement à la République de Saint-Marin, car le but de Garibaldi, c'est Venise. Il veut continuer la révolution à Venise. À Saint-Marin, on leur dit partez, parce que sans ça, c'est notre petite République qui aura affaire aux Autrichiens. Alors ils s'embarquent sur quelques bateaux qu'on a pu réquisitionner. Mais la marine autrichienne est là. La canonnade est ouverte et les petits bateaux ne peuvent pas aller plus loin. Ils s'échouent sur le rivage où d'autres Autrichiens les attendent. Anita est proche d'accoucher. Elle est à demi-morte. Et il faut que Garibaldi la porte. Dans ses bras, il descend sur le rivage. Partout, les balles des Autrichiens qui crépitent, ses camarades qui tombent à ses côtés. Lui, miraculeusement, il se cache dans des roseaux. Et puis il entend une voix qui lui dit « Viens, viens ». C'est un des partisans de Mazzini, par miracle, qui est là, un certain Bonnet. « Allez, viens, chut. Je vais te conduire. » Et imaginez cette scène, Bonnet qui montre le chemin et puis Garibaldi qui suit avec sa compagne, sa femme. Une cabane. Une cabane qui est un rendez-vous de chasse, là, au milieu des marais. On s'y abrite pendant une heure, elle existe toujours, on l'a photographiée. Et on sait que les Autrichiens vont arriver, alors on repart. Et pourtant, elle est mourante. Ira-t-elle plus loin, Anita? Oui, elle tient jusqu'à une maison. Où on la couche. Et là, Bonnet dit à Garibaldi, il faut que tu fuis, viens, je vais te conduire, laisse-la là. Elle risque rien, c'est à toi qu'on en veut. Si on te prend, il te fusille tout de suite. Garibaldi, non. Parce que tu ne sais pas tout ce que je dois à cette femme. Il reste là jusqu'à ce qu'elle meure, là, dans ses bras. Et puis il fuit. Qu'il soit passé à travers les lignes autrichiennes est encore quelque chose qui tient du prodige. Il rejoint le Piémont, là, on le regarde d'un mauvais œil parce qu'enfin, on a fait la paix avec l'Autriche. Tout est rentré dans l'ordre, les révolutions n'ont qu'un temps. Cet homme à la chemise rouge, bon, c'est un gêneur. Alors on lui dit, il faudrait peut-être quitter l'Italie. Comme il n'aime pas insister, qu'il a l'orgueil de sa fierté, qu'il est très fier, qu'il a le droit de l'être, il part pour New York, un engagement. Et à New York, il n'a pas d'argent parce que Garibaldi, tout ce qu'il fait, n'a jamais d'argent. C'est un homme qui ne touchera jamais d'argent pour rien. À New York, il n'a rien. Alors, il s'engage, comme vous voyez, oui, lui qui a été général, lui qui a conduit les légions italiennes, il est ouvrier dans une fabrique de chandelles. Il trouve ça très bien, il en est fier aussi, et il fabrique des chandelles. Et puis il trouve un engagement, il va reprendre son métier de marin pendant 2 ans, on le verra sur les mers, en Californie, en Asie, partout. Mais c'est l'Italie qu'il veut, parce que il sait, il sent que il faut pas renoncer. En tout cas, lui ne renonce pas. Il revient en Italie au moment où un de ses frères meurt et il hérite de ce frère. Un peu d'argent, le seul qu'il aura de sa vie. Et là, il achète une part d'une toute petite île inconnue, l'île de Caprera. Et là, il s'y rend avec une pioche, une pelle, une bêche, quelques sacs de grains, du ciment, et il construit une maison de ses mains. Une de ces grandes maisons blanches, telles qu'il en a vu autrefois en Amérique du Sud. Il est là avec ses enfants, qui grandissent. Et il va cultiver son champ. Il n'y a que du caillou. Mais il y a de l'eau. Alors quand il y a de l'eau, si on a des bras, eh ben on fait pousser quelque chose. Et il fera pousser du blé, il fera pousser du maïs, et même autour de la maison, parce que Giuseppe Garibaldi est un éternel romantique, quelques roses. Mais ça, c'est pour occuper ses bras. C'est pas pour occuper sa tête. Il y en a d'autres aussi dont la tête est occupée. En Piémont, Victor Emmanuel II a remplacé Charles Albert. Et il y a un homme politique dont les toiles montent, qui s'appelle Cavour. Et ces gens-là travaillent. Ils tissent leurs toiles. Fort de l'expérience de 1848, ils ne veulent plus attaquer jamais l'Autriche tout seul. Il faut un allié pour le Piémont. Ils savent que c'est à partir du Piémont, l'État le plus structuré d'Italie, que la liberté italienne se fera un jour. Mais comment attaquer l'Autriche? Un allié qui? Il n'y en a qu'un. C'est Napoléon III. Napoléon III qui, tout enfant, a été conduit en Italie par son précepteur, le fils du conventionnel Lebas, qui lui a dit « Monseigneur, regardez l'Italie asservie. Si un jour Dieu vous conduit au pouvoir, il faudra libérer l'Italie. » Et la pensée a frappé Napoléon III, Louis-Napoléon, puisqu'à 20 ans, il s'est jeté avec son frère dans l'insurrection des Romagnes. Et puisque, devenu empereur, il a dit à l'envoyé du royaume de Piémont qu'on me fasse savoir ce que je puis faire pour l'Italie. Alors Cavour est allé secrètement rencontrer Napoléon III à Plombières. On a convenu d'un plan. Si l'Autriche attaque le Piémont, la France viendra au secours du Piémont. Et tout est prêt. Nous sommes en 1859. Et Cavour, comme Charles Albert, bien des années avant, sent qu'il y a de nouveau une carte énorme à jouer, que cette carte s'appelle Garibaldi. Oui, le paysan aux mains calleuses, l'homme qui cultive son champ, Cincinnatus. Mais il continue à être aussi populaire. Il est l'image de la révolte, l'image de la liberté. Alors on l'appelle, et il arrive, avec sa chemise rouge, son bon visage, son regard limpide, sa barbe blonde. Il rencontre Cavour. Il rencontre Victor Emmanuel, ce roi qui est lui-même une espèce de paysan rustre, il suffit de regarder son visage tout particulier, qui chasse toute la journée, qui jure comme il parle, qui a une maîtresse, la Rosina, qui est la fille du tambour-major, il trouve ça très bien, mais les deux hommes se plaisent, c'est comme ça. Et on dit à Garibaldi, cette fois, vous allez être officiellement général. Et vous allez conduire vos volontaires derrière les lignes autrichiennes. Nous avons besoin de vous. Et vous allez passer en Lombardie. Car tout se passe comme il était prévu. L'Autriche adresse un ultimatum au Piémont. Le Piémont a tout fait pour ça. Comme il y a un ultimatum, la France vient au secours du Piémont et la campagne de 1859 commence. Cette campagne qui sera marquée par les victoires françaises à Magenta, italiennes, piémontaises, à San Martino. Quant à Garibaldi, lui, avec ses hommes, il a passé le Tessin. L'un des premiers, il s'était lancé sur la Lombardie, a soulevé la Lombardie contre les Autrichiens. Il est à Milan au moment où Napoléon III et Victor Emmanuel entrent à Milan. C'est Solferino, autre victoire, la paix de Villafranca. Et puis cette fois, la Lombardie définitivement italienne. Quand Napoléon III s'en va, il y a des protestations en Italie. Parce qu'on dit, mais pourquoi arrêter? Ben, Napoléon III était obligé d'arrêter. On le menaçait sur le Rhin, il fallait qu'il pense à la France autant qu'à l'Italie. Mais Garibaldi, lui, a compris. Il dit, mais non, n'en veuillez pas aux Français, ils ont fait le maximum. Remerciez-les. Pensez à tous ceux qui sont morts pour nous, parce que maintenant, l'Italie va tomber comme un frimur. Et elle tombe. Toutes les petites principautés du centre se rallient au Piémont, c'est magnifique. Mais Garibaldi, lui, eh bien, Garibaldi est partout. Et il est aussi dans le nord, là-bas, sur les lacs, parce que pendant la campagne, il a rencontré une jeune fille de 18 ans, il faut bien en parler, elle est la fille du marquis Raimondi, il est tombé amoureux. Bah oui. Depuis Anita, il y en a eu d'autres, je ne les ai pas cités, il y en a eu beaucoup. Il a même eu des enfants avec une certaine Battistina, mais enfin, il l'a oublié. Il est tombé amoureux de la fille du marquis Raimondi. Il la demande en mariage, elle dit oui, et au château Raimondi, c'est le mariage imprévu de cet homme qui a 52 ans avec cette jeune fille de 18 ans, de ce paysan avec la fille d'un comte. Alors, la messe, grande réception au château, et tout à coup, une chemise rouge, qui apporte une lettre à Garibaldi. Il l'ouvre, il devient livide, il attend à la jeune personne, et il lui dit « C'est vrai ?» Elle la lit, elle dit « Oui ». Alors là, il est fou de rage, il prend une chaise pour l'assommer, on est obligé de le retenir. La lettre disait simplement que cette jeune personne si charmante avait un amant depuis longtemps, qu'elle était enceinte de plusieurs mois, ce qui était un peu ennuyeux pour se marier avec Garibaldi, avec un autre aussi d'ailleurs. On comprend la colère de Garibaldi. Alors il est parti, malheureusement, il était marié religieusement, et vous savez que le mariage ne se dissout pas en Italie, même jusque maintenant, et qu'il est resté marié, enfin, si j'ai le temps, j'en reparlerai. Enfin, il était marié avec elle presque jusqu'à son dernier jour. Mais enfin, c'est un épisode. Et il est retourné dans son île, déçu, amer, amer dans sa vie privée, déçu aussi parce qu'il reste un grand morceau de l'Italie qui n'est pas réuni. Et ce grand morceau, c'est le royaume des deux Siciles que je voudrais vous monter sur une carte. Parce que, voyez-vous, voilà l'Italie du Nord. Voilà donc le Piémont, d'où tout est parti, la Lombardie qui est devenue la propriété du Piémont, les principautés qui se sont reliées, la Toscane aussi, une partie des États de l'Église. Bon, il reste Rome, évidemment, qui est indépendant. Et il reste tout ça, qui, comme vous le voyez, est énorme. Il reste ce qu'on appelle le royaume de Naples, ou le royaume des deux Siciles, parce qu'il y a ces morceaux-là, et il y a la Sicile. Et ça fait une bagatelle de 10 millions d'habitants. Et notre Garibaldi, qui est dans son île, se dit, mais enfin, combien d'années faudra-t-il? Et cette fois, ni Victor Emmanuel, ni Cavour ne veulent à aucun prix attaquer le royaume. Parce qu'il ne s'agirait plus d'une révolution. Il ne s'agirait plus d'une opération d'émancipation. Il s'agirait d'une guerre, d'une vraie, d'une guerre traditionnelle. Et l'Europe ne veut pas de guerre traditionnelle. On ne veut pas qu'on fasse une vraie guerre. L'Autriche, oui, Napoléon III était d'accord. Mais là, Napoléon III n'est même plus d'accord pour ça. Il trouve qu'il ne faut pas courir trop de dangers. Alors on lance. Il y a une espèce de chape de désespoir qui s'abat sur les patriotes italiens. Sur les patriotes, sauf un. Celui qui est là, celui qui s'appelle Garibaldi. Parce que on va insister à cette chose dont il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire d'un homme seul qui déclare, eh bien, puisque ni les rois, ni les ministres, ni les généraux, ni les armées régulières ne veulent donner à l'Italie 10 millions d'habitants, moi, Garibaldi, je vais les donner. Et il le fait. En son nom, on fait des quêtes dans l'Italie. Il récolte de l'argent. Il engage des volontaires. Et bientôt, ils sont 1000. Et en 1860, nous sommes dans le roman le plus incroyable qui ait été. Ces 1000 s'embarquent à Quarto, navigue à travers la Méditerranée jusqu'à la Sicile. Le plan de Garibaldi, c'est d'attaquer les deux Siciles par la Sicile, de prendre d'abord la Sicile et ensuite Naples. Il débarque à Marsala, évitant la flotte des Bourboniens, du roi de Naples. Ils prennent Marsala. Et surtout, ce qui émerveille Garibaldi, c'est qu'il sait qu'il avait vu juste. Parce qu'on l'accueille non pas comme un homme qui vient en ennemi, mais comme un libérateur. Et les gens de Marsala sont là autour de lui, l'acclament, crient « Vive Garibaldi !» Les femmes tombent à genoux, elles trouvent qu'il ressemble à Jésus-Christ, qui est peut-être vrai, elles font des signes de croix, on l'adore, les prêtres arrivent, l'asperge d'eau bénite. Il est le héros de la libération. Mais il y a une énorme armée bourbonienne en Sicile. Et lui qui veut marcher sur Palerme, il sait qu'il va trouver cette armée sur son chemin, il marche. Et à Calatafimi, voilà les deux armées face à face. Et c'est Garibaldi qui l'emporte. Il gagne la bataille de Calatafimi, les autres refluent en déroute. Il entrera dans Palerme, pendant que l'armée bourbonienne le cherche ailleurs parce qu'il avait envoyé une partie de ses hommes ailleurs pour qu'on les poursuive ailleurs. Il entre à Palerme. On bombarde la ville, les Bourboniens qui tiennent une position élevée bombardent la ville. Lui s'installe sur la place au milieu des bombes, en plein air, son quartier général. Et les gens de Palerme disent, mais non seulement c'est Jésus-Christ, mais il est invulnérable. Il a déjà cette aura fantastique qui l'enveloppe. Et Alexandre Dumas, mais oui, le voilà. Alexandre Dumas,
qui lit tout ça dans les journaux de Paris se dit, mais enfin, c'est pas croyable. Moi, j'ai écrit des romans, j'ai écrit Les Trois Mousquetaires, j'ai inventé D'Artagnan, Aramis, Athos. Mais c'est un de mes personnages. Il est là-bas. Alors là, Dumas veut s'en rendre compte et il arrive. Il se rend compte, il tombe dans les bras l'un de l'autre, à grand Dumas, à grand Garibaldi, c'est parti. Et Dumas va suivre jusqu'au bout Garibaldi, se faisant son historiographe, publiant tous les jours un journal dans lequel il raconte ses faits et gestes, et notamment cette scène qu'il n'a sûrement pas inventée. Après une bataille, il cherche Garibaldi. Il le cherche dans Palerme, et il le trouve dans une église. Il est fatigué, il a jeté simplement son manteau sur le dallage de l'église. Sa tête est appuyée sur sa selle, il dort, et à côté de lui, il y a les reliefs de son repas, un morceau de pain, un morceau de fromage de chèvre et une carafe d'eau, une cruche d'eau claire. Ça, c'est Garibaldi. Et voilà que les hommes des Bourbons, à bout de munitions, le moral anéanti quand ils voient que toute la gloire va vers les libérateurs, que les cloches sonnent pour Garibaldi, que eux, qui sont les soldats de l'armée régulière, on les déteste, on les hait, on les insulte. Eh bien, cette armée qui a encore 20 000 hommes, qui a encore des canons, qui a encore des munitions, ben, cette armée se rend. Et Garibaldi, grand seigneur, l'autorise à repartir pour là. Il est le dictateur de la Sicile. Avec Crispi à son côté, qui organise le nouveau gouvernement. Et naturellement, il débarque, bientôt en Calabre, à Reggio, à plusieurs reprises. Les troupes bourboniennes lui barrent la route et toujours il les enfonce. Et toujours derrière, ce sont les villes, les villages qui courent vers lui, les cloches qui sonnent, les pétarades, les pétards, les femmes qui pleurent, le héros, jusqu'au jour où François, le dernier roi de Naples, quitte sa ville et où Garibaldi reçoit un télégramme, une dépêche, mais oui, du ministre de la police, de l'ex-roi, qui lui dit « Venez vite, Naples est à vous. N'attendez surtout pas grand Garibaldi. » Garibaldi ne peut pas y aller comme ça avec toutes ses troupes, alors il prend le train. Ils sont 12 chemises rouges. Il envoie une dépêche, j'arriverai à telle heure à la gare. Je crois que c'est le seul cas dans l'histoire où on prend une ville par la gare, à 12. Et alors là, il y a 100 000 personnes. Parce que le ministre de la police a bien fait les choses, et à Naples, on a convoqué tout le monde. Le grand Garibaldi arrive, alors tout le monde est là, c'est fantastique, des fanfares, les femmes, les hommes, les enfants. Et il arrive, le train entre en gare au milieu de cette cohue invraisemblable. Le ministre arrive, son discours à la main, il veut accueillir Garibaldi, il y a les corps constitués, il y a les petites filles avec les fleurs. Garibaldi dit, attendez, un tout petit instant. Il va vers la locomotive, satisfait derrière un besoin naturel, et revient se mettre à la disposition de ses nouveaux sujets. Et l'entrée dans Naples sera quelque chose. Vous savez, on dit indescriptible quand on n'a pas de mots, mais on n'a pas de mots, parce qu'il faut, dire que ça se passe en plus à Naples. Alors, hein, François, le malheureux roi, réunit ses dernières troupes. Ce sera la bataille du Volturno, qui sera très dure, très difficile, car cette fois, les Bourboniens veulent se battre jusqu'au bout. Pour Garibaldi, la bataille est perdue le matin. Grâce à des réserves qu'il utilise l'après-midi, il reprend le dessus et c'est lui, à la fin de la journée, qui est vainqueur. Le roi de Naples est vaincu définitivement, c'est fait. Et c'est à ce moment que, par le nord, il était temps, le roi Victor Emmanuel arrive prendre ce royaume que Garibaldi lui a conquis. Je ne dis pas que Victor Emmanuel et Cavour n'étaient pas aussi... Bien sûr, officiellement, face à l'Europe, ils réprouvaient cette aventure. Mais enfin, ils avaient envoyé tout de même l'argent qu'il fallait, et quelquefois les munitions qu'il fallait, mais cette fois, ils arrivaient, le fruit était mûr, il était tombé, et c'est Garibaldi qui a porté au roi cet extraordinaire cadeau. La moitié de l'Italie, 10 millions d'habitants. Les deux hommes qui se rencontrent, « Bonjour, Garibaldi. Bonjour, sire. Merci, Garibaldi. Ce que j'ai fait, sire, c'était pour l'Italie. » Alors, ils rentrent tous les deux à Naples, dans la même calèche, et le roi a un peu le désagrément d'entendre qu'on crie beaucoup « Vive Garibaldi », pas tellement « Vive le roi Victor Emmanuel ». Il dit « Vous êtes populaire, général ?»« Bah oui, sire. » Mais tout change parce que Garibaldi voudrait que ses officiers soient intégrés avec le grade qu'il leur a donné dans l'armée, on refuse. Ils voudraient que ces volontaires se voient reconnus leur titre de guerre. On refuse. Il dit non, ma place n'est plus là. Il a compris. Il avait fait ce qu'il avait à faire. Mais maintenant, on entrait dans des finasseries qui n'étaient pas pour lui. Et le général Cialdini s'annonce chez lui, lui dit, général, au nom de Sa Majesté, je vous annonce que vous êtes prince de Calatafimi. Votre victoire. Je vous félicite. Voici le grand cordon de l'ordre de l'Annonciade. Votre fils Menotti est aide de camp du roi et le roi paiera la dot de votre fille. Lui, prince, avec un grand cordon, un fils aide de camp, il regarde le général Cialdini. Son visage, peut-être un peu naïf, mais quelle belle naïveté. Et vous savez, général, tout ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas fait ça pour ça. Maintenant, c'est fini. Alors, vous voudrez bien saluer Sa Majesté pour moi. Il va acheter un sac de grain, un sac de blé, un sac de sucre, un sac de café, et il s'embarque pour son île de Caprera. C'est beau, non? Il reste Rome, bien sûr. Alors de Caprera, il fera tout pour que Rome devienne italienne et même, il prépare une expédition un peu aventurée. Il ira ici, à Aspromonte, rencontrera les troupes de Victor Emmanuel qui l'empêcheront de passer, même qui tireront sur lui. Il sera blessé à la jambe. Et même, on pensera à l'amputer. Le roi Victor Emmanuel, c'était un peu tard, lui enverra le plus grand chirurgien d'Europe, le docteur français Nélaton, qui conclura qu'il ne faut pas l'amputer. Au moment de la guerre avec l'Autriche, au moment de Sadova, il reprend du service, va encore se battre là-bas en Italie du Nord, est blessé une fois encore. Mais Rome, ça n'est pas lui qui, exceptionnellement, la donnera à l'Italie. En 1870, la France, je ne l'apprends à personne, déclare la guerre à la Prusse. Le corps expéditionnaire quitte Rome, bien sûr, et Victor Emmanuel rentre à Rome. C'est ainsi que le drapeau italien, le drapeau de la Maison de Savoie, va flotter sur la capitale logique et normale de l'Italie. Garibaldi, à ce moment-là, regarde ailleurs. Il est vieux, il est malade, il souffre horriblement de ses rhumatismes. Il n'y a plus d'empereur en France. La République française se bat. La République française est en danger. Et il se souvient de ces Français qui, justement, en 1859, ont donné leur sang pour l'Italie. Et il arrive. Le voilà avec sa légion des Garibaldiens au secours de la France malheureuse et il est dans les Vosges, il est à Dijon. Et savez-vous que la dernière bataille qu'ont perdue les Allemands pendant la guerre de 70, ils n'en ont pas perdu beaucoup, ils l'ont perdue contre Garibaldi. Mais pour lui, tout ça est fini. Il sortir dans son île avec sa famille, avec sa dernière femme, Francesca, qui lui donne également une fillette. Il se bat pour faire annuler son premier mariage, il y arrive après des années et pour pouvoir épouser sa dernière femme. Il écrit ses mémoires. Il pense à l'avenir, il projette une république universelle, il rêve sur cette république universelle. Il voudrait qu'on condamne la guerre, qu'on la mette hors la loi. Il voudrait que chaque pays en république s'allie aux autres républiques. Et il écrit tout cela. Il peut être fier de lui. Parce que
cette liberté qu'il prêche maintenant au monde, cette fraternité qu'il appelle de tous ses voeux, cette vraie fraternité, il la ressent. C'est un homme simple, Garibaldi, il n'a pas connu de sentiments compliqués, voyez-vous. Et au fond, les révolutionnaires, comme lui, sont les révolutionnaires authentiques, c'est-à-dire ceux qui croient de toute leur foi à ce qu'ils enseignent aux autres. Et parmi les révolutionnaires, je pense que Garibaldi mérite une place à part, parce qu'à l'efficacité, et Dieu sait quelle fabuleuse efficacité, l'homme seul qui crée un pays. À l'efficacité, il allie quelque chose d'unique, qui est la générosité. Dans son île, il attend la mort. Il a ses enfants autour de lui. Il ne quitte plus son grand fauteuil. Un jour, c'est son lit qu'il ne quitte plus. Il s'affaiblit. Et le 2 juin 1882, il y a là, sur la fenêtre, deux oiseaux, deux pinsons qui se sont fixés, qui ne bougent pas. Et à ses enfants, il dit, ne bougez pas non plus, vous. Si vous bougez, vous les effrayerez. Et peut-être que ces deux pinsons sont les âmes des morts, et que s'ils s'en vont, ils emmèneront une autre âme morte. Alors personne ne bouge. Et puis, quand les pinsons s'envolent, Giuseppe Garibaldi rend sa belle âme.